Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 5. 6 août 2025. Le général Sergueï Bogolioubov s'était réveillé du mauvais pied ce matin. La vodka avait fait son effet habituel lorsque la nuit était trop chaude. Il était arrivé à son bureau de l'Office fédéral des forces spatiales vers 10 heures. Son aide de camp lui était tout de suite tombé dessus pour lui annoncer que le colonel Kromitine voulait le voir dans les plus brefs délais et qu'il attendait dans le salon d'à côté. Bogolioubov n'aimait pas ce jeune colonel qu'il pensait vouloir prendre sa place, également dans les plus brefs délais. Il se méfiait tellement de lui qu'il pensait que Kromitine fomentait constamment des pièges à même de le mettre en échec et de montrer ainsi son incompétence à l'état-major. « Amenez-le-moi dans mon bureau dans 10 minutes !» lança le général à son aide de camp. « Bien, mon général !» répondit le capitaine. Pavel Kromitine était un pur produit de l'armée de l'air, comme Bogolioubov du reste. Mais la grosse différence entre le colonel et le général était que Bogolioubov avait acquis ses galons en allant là-haut. Sergueï Bogolioubov avait été parmi les premiers cosmonautes soviétiques à rester plus de 9 mois d'affilée dans la station Mir. Et il y était retourné à 3 reprises dans les années 90, juste après la chute. Ses séjours en apesanteur avaient transformé ses insignes de capitaine en ceux de général. Il avait gravi en même temps les échelons hiérarchiques au sein du cosmodrome de Baïkonour, ce qui lui avait permis de rejoindre logiquement le département fédéral de l'armée de l'air consacré aux activités spatiales, qui était devenu plus tard l'Office fédéral des forces spatiales russes. Il avait connu l'époque du réchauffement avec les Américains, lorsqu'ils avaient imaginé ensemble la station spatiale internationale pour remplacer Mir. Bogolioubov avait participé au programme conjoint Navette Mir entre 1994 et 1998, dont l'objectif était de préparer la construction de la station spatiale internationale en permettant à la NASA d'acquérir le savoir-faire incontournable de la Russie dans le domaine de l'assemblage d'une station et des séjours de longue durée. Dans le cadre de ce programme, plusieurs astronautes américains avaient même effectué des séjours à bord de la station spatiale Mir. Le programme Navette Mir avait connu en tout 11 missions au cours desquelles la navette spatiale américaine s'était amarrée à la station spatiale russe, et un vol commun russo-américain avait même été effectué à bord de Soyouz. En temps cumulé, les astronautes américains avaient passé plus de 1000 jours à bord de Mir. Bogolioubov avait gardé des liens étroits avec certains astronautes américains, dont quelques-uns d'entre eux étaient encore en activité à l'Agence spatiale américaine, à des postes hiérarchiques importants. Kromitine, qui avait 20 ans de moins que le général, quant à lui, n'avait jamais volé plus haut que la stratosphère. Il avait été pilote d'essai sur divers avions espions, prototypes, durant les années 2010, puis n'avait plus quitté la terre ferme à partir de 38 ans. En bon soldat poutiniste, il exécrait les Américains et avait toujours considéré comme une trahison la coopération russo-américaine dans la station spatiale. Même s'il existait un rapprochement certain entre Poutine et Trump au plus haut niveau, ça ne l'empêchait pas de considérer les Américains comme des impérialistes occidentaux belliqueux qui resteraient à jamais les ennemis de la Grande Russie. Il pensait que les Américains jouaient un jeu trouble dont le seul objectif était d'endormir la Russie pour pouvoir attaquer la Chine avec un seul front. Pavel Kromitine avait pris la tête du service d'espionnage spatial 2 ans auparavant, alors que la guerre ukrainienne faisait rage et que les armes américaines se déversaient par milliers de tonnes sur le grenier à blé qu'il fallait récupérer coûte que coûte. Il gérait la flottille des satellites russes qui surveillaient en continu toutes les parties du monde, sans aucune exception. La nouvelle qu'il venait d'apprendre et qui avait été confirmée était très grave et il devait immédiatement en informer son supérieur hiérarchique qui était ce général vieillissant multidécoré Bogolioubov. « Mon général, j'ai reçu ce matin une information importante. Nous venons de perdre l'un de nos satellites de surveillance de la classe Lynx, l'unité 005 pour être exact. Il s'agissait d'un satellite qui avait été lancé il y a 18 mois pour couvrir la Chine méridionale. L'information importante ici, c'est qu'il n'a pas été simplement perdu, il a été détruit.
Détruit ? Comment ça détruit ? Répondit Bogolyubov en haussant ses sourcils broussailleux que cachaient ses grosses lunettes.
Après la perte du signal, nous avons lancé la procédure d'observation radar et d'observation satellitaire par le réseau Baïkal. Les deux indiquent la présence de nombreux débris autour de Lynx 005.
Mais qui aurait pu faire ça ?
Demanda le général sans y croire. Les Américains ou bien les Chinois ? Répondit Chromitine.
Aucun des deux. Vous avez pensé à une fragmentation interne ?
Sur les lynx, c'est très peu probable. C'est bien sûr toujours possible en théorie, à cause de leur carburant, mais ils ont été conçus pour éviter ce type d'avarie, avec une probabilité de fiabilité de 99,995. Ce n'est jamais arrivé sur la nouvelle famille de lynx, et ni sur la génération précédente non plus, répondit le colonel.
Les Américains, pourquoi auraient-ils fait ça ?
Et pourquoi pas ?
S'il fallait trouver un coupable, je chercherais plutôt du côté des Chinois. Vous m'avez dit que ce lynx était focalisé sur la mer de Chine, c'est ça ?
Demanda Bogolyubov.
Oui, et pas uniquement, bien évidemment, étant donné sa trajectoire. Mais c'était une cible privilégiée. Nous étions en train de suivre les mouvements de la marine chinoise dans le détroit au moment où nous avons perdu le contact.
Et vous avez détecté un tir de missile ?
Demanda le général.
Non, mon général, aucun tir de missile suspect n'a été détecté selon nos renseignements, que ce soit du côté chinois ou américain.
Alors, avec un satellite Harpon ?
On ne peut pas l'exclure. Nous savons que les deux en possèdent, et nous savons aussi que leur vitesse ne permet pas de les détecter à temps, répondit Chromitine.
Oui, c'est sûr, hein, c'est tout leur intérêt, rétorqua Bogolyubov. Bon, je veux un rapport écrit détaillé sur la situation de la perte de ce lynx d'ici à demain soir.
Bien, mon général. Je rappelle que le projet lynx est classé au niveau très confidentiel défense, mon général. Toute communication à ce sujet est très restreinte.
Chromitine avait jugé opportun de préciser le caractère top secret du projet lynx, car il soupçonnait Bogolyubov d'accointance avec la NASA, et il craignait que le vieux général parle indirectement aux Américains de cette disparition de satellites espions.
« Vous pouvez disposer.
Merci, » fit Bogolyubov.
Les Lynx étaient une classe de satellites que l'on qualifiait d'espions, car c'était leur objectif premier. Cela était équipé non seulement d'optiques très performantes, mais aussi d'antennes multifréquences de très haute sensibilité. Ils avaient des yeux et des oreilles qui permettaient de produire des images avec une résolution de 5 cm et d'enregistrer des conversations radio sans bruit parasite à 360 km d'altitude. La famille des Lynx était composée de 24 unités qui parcouraient le globe à des inclinaisons comprises entre 0 degré et 172,5 degrés, espacées de 7,5 degrés. Leur autre point fort était de pouvoir être repositionnés à volonté durant leur période d'activité, grâce à leur moteur à ergol. Cela permettait d'en concentrer plusieurs sur une même zone, et une réserve de carburant était conservée jusqu'à la fin de leur vie en orbite, qui était de l'ordre de 6 ans, afin de provoquer une rentrée atmosphérique finale et leur disparition physique complète après n'avoir jamais existé officiellement pendant plusieurs années. Le principe des satellites repositionnables datait de quelques dizaines d'années déjà. C'était ce même principe qui avait donné l'idée aux Russes les premiers, puis aux Américains et aux Chinois par la suite, de développer des satellites tueurs. On les appelait aussi des satellites harpons. Il s'agissait simplement de créer une collision spatiale avec le satellite ennemi que l'on souhaitait faire disparaître. Les satellites harpons étaient de petite taille et n'étaient constitués que d'un moteur et d'une réserve de carburant. La version russe était munie d'une sorte de plaque métallique conique assez large, à même d'assurer une collision destructive efficace. Le nombre de débris produit lors d'une destruction volontaire de ce type dépendait fortement de la vitesse et de l'angle d'incidence du satellite Harpon, en plus de la nature du satellite cible. La Russie possédait 4 satellites Harpon de dernière génération. À l'époque soviétique, entre 1968 et 1982, 8 tests destructifs réussis de ce type avaient été effectués afin de démontrer l'efficacité du procédé. Puis la Russie avait renouvelé les essais avec succès, après plusieurs tentatives, à nouveau en 1994 puis en 2019, en détruisant des vieux satellites hors service. Le nombre de débris produits par ces collisions volontaires était estimé à un peu plus de 900. Les Américains n'avaient fait qu'un seul test de ce type, en fragmentant un élément de lanceur Delta en 17 morceaux. Ils devaient posséder au moins une dizaine de satellites tueurs, tandis que la Chine venait de se mettre au diapason pour faire bonne figure face à leur nouvel ennemi déclaré. Et ils en possédaient déjà 5. Pavel Kromitin faisait le point sur l'arsenal américain et chinois de satellites Harpon en épluchant toutes les informations qu'il avait reçues du contre-espionnage sur le sujet. Les informations les plus récentes faisaient état de difficultés techniques récurrentes sur les satellites tueurs chinois. Les 5 unités qu'ils avaient lancées en même temps, 3 ans auparavant, avaient connu visiblement un défaut de fabrication générique sur leur système de propulsion, ce qui impliquait une mauvaise manœuvrabilité en orbite. L'armée chinoise était actuellement en train de concevoir une nouvelle génération qui aurait un système de propulsion tout à fait différent. Le rapport du FSB, qui décrivait des écoutes obtenues dans les instances du programme militaire spatial chinois, révélait que les 5 tueurs actuellement en orbite n'étaient pas utilisables tels quels. L'ingénieur en chef qui avait dirigé le premier programme avait d'ailleurs disparu brutalement de la circulation, probablement envoyé ramasser des patates au fond du Xinjiang. La piste chinoise s'affaiblissait d'autant plus que le Lynx 005 n'était pas le seul à avoir été mis sur les manœuvres navales de la mer de Chine. Lynx 007 avait été également positionné sur cette zone. On pouvait penser que si les Chinois étaient au courant de la présence de 005, ils connaissaient aussi la position de 007. Comme les deux espions faisaient exactement le même travail, ils auraient sans doute cherché à détruire les deux en même temps. Cela n'aurait pas eu d'intérêt pour eux de détruire seulement un des deux lynx. Restait la piste des Américains. Pour Kromitin, toutes les occasions qu'auraient les Américains pour déstabiliser la puissance spatiale russe seraient prises, il en était sûr. Mais il ne trouvait pas la moindre information allant dans ce sens, émanant des services du FSB ou du SVR, concernant les satellites lynx. Depuis le retour de Trump au pouvoir et la lourde défaite de l'Ukraine qui s'en était suivie 6 mois plus tard, faute de munitions, Trump ayant stoppé net toute l'aide militaire apportée jusque-là et l'Union européenne étant restée les bras ballants, les Américains voyaient les Russes à nouveau comme des partenaires crédibles sur le plan international. L'administration Trump avait levé les sanctions économiques que l'administration précédente avait infligées à Poutine. Kromitin n'arrivait pas à se faire à l'idée que les Américains pouvaient être à de nouveaux amis. Pourtant, tous les rapports des services de contre-espionnage allaient dans ce sens. Une action belliqueuse de destruction d'un lynx dans ce contexte était plus qu'improbable. Pavel Kromitin tournait en rond et ruminait. Sergueï Bogolyubov savait qu'il y avait 8 heures de décalage horaire entre Moscou et la côte est des États-Unis. Il attendit qu'il soit 10 heures du matin chez son vieil ami John Mitchell pour l'appeler avec son téléphone portable sous fausse identité. Le dégel était officiel, mais il avait conservé les habitudes des quelques années passées. Il s'était lié d'amitié avec John dans la station Mir en 1996. Mitchell avait passé 3 mois dans la station russe et c'était Bogolyubov qui lui avait ouvert le SAS reliant Mir à la navette Discovery à son arrivée. Mitchell n'avait jamais oublié cet accueil russe si particulier, fait de multiples cadeaux et les mini-bouteilles de vodka cachées un peu partout dans des compartiments secrets de la station. Le cosmonaute et l'astronaute avaient ensuite effectué des sorties extravéhiculaires ensemble avec de nombreuses péripéties. C'était à cette occasion qu'un Américain avait enfilé une combinaison spatiale russe pour la première fois dans l'histoire. Mitchell avait continué sa carrière à l'Agence spatiale américaine, prenant une part importante dans l'élaboration du programme de la Station spatiale internationale, en collaboration étroite avec l'Agence spatiale russe, et il était aujourd'hui un responsable important de la NASA, en charge d'un service de surveillance des satellites et des débris spatiaux. Les deux hommes étaient restés en contact durant toutes ces années, et Bogolyubov avait même effectué plusieurs séjours chez Mitchell, à Baltimore, au début des années 2000.
« Comment va mon cher Johnny ?»
lança le vieux général. « Très bien, Sergueï, très bien. Et toi ? Et Olga ?»«
Olga va très bien, elle te souhaite le bonjour, ainsi qu'à Hélène. »«
Tu la remercieras pour la carte d'anniversaire pour Hélène, elle l'a bien appréciée. Alors toujours chaud chez vous ?»
« Oh, autant que chez vous, hein, j'en ai peur !» fit Bogolyubov.
« C'est de pire en pire, hein, chaque année, hein, c'est clair, hein, » dit Mitchell. Puis il poursuivit. « Alors, quand est-ce que vous venez nous voir pour faire un barbecue ? Vous êtes toujours les bienvenus, hein, tu sais. »«
Merci, John. J'aurai bientôt beaucoup de temps libre, tu sais. La retraite s'approche à grands pas. »«
Retraite, déjà ?»«
Eh oui !» On nous arrête à 70 ans ici, pour ceux qui ont fait plus de 18 mois en orbite. À croire qu'on vieillit plus vite là-haut,
ricanait Bogolyubov. C'est quand même un peu vrai, Sergueï.
Oui, d'accord. Mais je te rassure, je suis encore en pleine forme.
Bogolyubov en vint au cœur du sujet qu'il souhaitait aborder avec Mitchell.
Je voulais te demander une chose, toi qui es spécialiste des débris spatiaux.
Oui, qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que vous auriez détecté une recrudescence de débris ces derniers temps?
Demanda le 5 étoiles. Ces derniers temps? Sur quelle plage de temps? Demanda Mitchell, qui commençait à être intrigué par la demande de son vieil ami.
Depuis quelques semaines, disons,
répliqua l'ancien cosmonaute. Vous avez eu un problème récemment? Demanda Mitchell.
« Je ne peux pas tout te dire, mais disons qu'il est possible que nous ayons eu un problème de fragmentation inexpliqué. »
John Mitchell fit immédiatement le lien avec les déboires de Skylink et ceux de la JAXA. « Est-ce que tu pourrais être plus précis sur la date, s'il te plaît ?» demanda l'ancien astronaute.
Hier.
Hier ?«
Oui, je ne peux pas te dire de quoi il s'agit, hein. Tu peux comprendre pourquoi. » Mais c'est une entité qui aurait pu avoir plusieurs causes de destruction, si tu vois ce que je veux dire.
Ah, je crois voir ce que tu veux dire. Et je peux te dire que je n'ai entendu aucune information chez nous au sujet d'une action unilatérale, si tu vois ce dont je parle, répondit Mitchell.
Je m'en doutais bien, évidemment, ce n'est plus dans l'air du temps.
Non, et je ne suis même pas sûr que cela l'aurait été. Bon alors, pour te répondre, hein, eh bien, ce que tu me dis me rend très perplexe, parce que nous avons une forte augmentation de fragmentation de satellites depuis les 11 juillet.
C'est il y a 4 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'en parler?
Oui, c'est du civil. On a 2 satellites Skylink qui se sont fragmentés. Le premier le 11 juillet, suivi du deuxième 3 jours plus tard, et celui-là a été impacté par les débris du premier.
Non!
Mais c'est pas tout. Tu as peut-être entendu parler de la perte du télescope japonais X-RISM, le 17 juillet dernier. Eh bien, tout porte à croire que ce sont les débris de ces 2 Skylink qui en sont à l'origine.
Mon Dieu! Chuchota Bogolyubov.
Et Skylink nous ont annoncé il y a une semaine qu'ils avaient perdu de vue 3 autres satellites tout neufs qui venaient d'entrer en service. Bogolyubov écoutait son interlocuteur en essayant d'intégrer toutes les informations qu'il entendait sans y croire. Il croyait entendre un scénario catastrophe. Mitchell continuait. « Nous avons effectué des détections de débris sur ces 3 autres Skylink et elles se sont révélées positives. » Bogolyubov remercia Mitchell pour lui avoir donné ces informations et mit rapidement fin à la conversation. Non sans avoir fixé une date pour un futur séjour printanier dans le Maryland. Le général Bogolyubov fit appeler le colonel Kromitine. Il était 9h30. Kromitine se présenta 5 minutes plus tard.
Vous devriez explorer la piste d'un impact de débris spatiaux,
lança Bogolioubov avec autorité.
Oui, mon général, c'est une piste que je comptais suivre, étant donné mes recherches infructueuses sur une action malveillante.
Il fallait s'en douter, répondit Bogolioubov.
Mais tout est inimaginable, rétorqua Kromitine.
Mais les Américains sont tout de même la cause de notre problème, continua le général.
C'est-à-dire?
Vous devriez chercher du côté des constellations de satellites, du genre Skylink.
Bien, mon général. Est-ce que vous avez d'autres informations qui pourraient m'être utiles? Demanda Chromitine.
Pas exactement, mais j'ai appris que le télescope que les Japonais ont perdu le 17 juillet aurait été impacté par un fragment de satellite Skylink. Je vous invite à fouiller parmi toutes les trajectoires de ces satellites pour voir si notre lynx aurait pu être victime du même processus.
Mais il y en a plus de 9 000 de ces satellites, répondit Chromitine.
On fait bien un suivi de tout ce qui est en orbite, non?
Oui.
Allez, vous pouvez disposer.
Chromitine sortit du bureau sans se retourner et alla directement à l'étage où se trouvait le service de surveillance des satellites. La responsable du service était la lieutenant-colonel Irina Pradinova. Avec son équipe, elle avait construit une base de données qui tentait de répertorier la totalité des satellites actifs et inactifs, avec l'ensemble de leurs paramètres orbitaux. Ils s'étaient historiquement focalisés sur les satellites militaires américains, européens et chinois, mais poursuivaient actuellement leur travail en ajoutant les satellites civils, qui étaient pour leur grande majorité aujourd'hui des satellites de constellation. Ils avaient commencé cette action lorsque Minsk avait offert à l'Ukraine un accès facilité à ses premiers satellites Skylink au début de la guerre. La frontière entre satellites civils et militaires était alors devenue très floue. Les satellites des constellations commerciales pouvaient devenir autant d'armes qui pouvaient être utilisées sur le terrain militaire. Nous soupçonnons l'existence d'un lien entre la perte de notre Lynx 005 et les satellites Skylink, annonça le colonel Chromitine.
Vérifiez toutes les orbites des Skylink ou des autres constellations, pas seulement américaines.
Jusqu'à quel niveau de séparation doit-on regarder? Demanda Irina Pradinova.
À vous de juger, il faut que ce soit une séparation réaliste pour un étalement de débris de quelques semaines.
Bien, mon colonel. Nous considérerons un étalement moyen sur une durée de 3 semaines dans ce cas.
Très bien. Je veux le rapport dans 4 jours.
À vos ordres, mon colonel.
Irina plaça l'ordre de Chromitine en action prioritaire et activa les équipes de son service pour répertorier toutes les trajectoires qui auraient pu impacter celle du Lynx 005 le jour de sa perte. Lynx 005 se trouvait à une altitude de 360 km sur une orbite inclinée à 30 degrés. La recherche se concentrait sur des altitudes comprises entre 300 et 510 km, avec n'importe quelle inclinaison, du moment qu'un passage à moins de 150 km ait eu lieu le 5 août. Les modélisateurs avaient calculé, grâce aux données acquises lors de la destruction volontaire de Cosmos 1408 en 2021, que l'étalement moyen d'un nuage de débris en 3 semaines était d'environ 150 km. Étant donné que le Lynx 005 était à 360 km, il fallait donc scanner des trajectoires jusqu'à une altitude de 510 km. En revanche, il n'était pas nécessaire d'aller voir plus bas que 300 km, car à des altitudes aussi basses, les débris avaient une probabilité beaucoup plus grande de s'étaler vers le bas et de brûler dans l'atmosphère.